France Info.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Notre invité Louis Alliot, bonjour.
Bonjour.
Député du Rassemblement National des Pyrénées-Orientales. Bonjour Jean-Jérôme Bertolus.
Bonjour Jérôme, bonjour Louis Alliot. Bonjour. Alors dans l'attaque terroriste de Condé-sur-Sarthe, le parquet a été saisi. Des défaillances dans la chaîne administrative et politique sont-elles à relever ? On écoute tout de suite la réaction de Guillaume Larrivé, le secrétaire général des délégués des Républicains.
Je pose solennellement au nom des Républicains la question à Madame Belloubet. Que faisait cet individu à la prison de Condé-sur-Sarthe avec son épouse dans une unité de vie familiale ? Je considère que c'est une faute du ministère de la Justice de ne pas avoir placé cet individu en isolement total. La vérité, c'est qu'au ministère de la Justice, la rupture avec les années Taubira n'a toujours pas été faite.
Vous êtes d'accord, ce détenu aurait bien sûr dû être placé à l'isolement ?
Oui, je suis relativement d'accord avec ce que vient de dire ce secrétaire général, je crois.
Délégué, oui.
Délégué général. C'est vrai qu'on a l'impression quand même de laxisme généralisé, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Nous sommes dans une prison de déradicalisation avec un élément...
Très sécurisé.
Très sécurisé. Je crois qu'elle a coûté 67 millions d'euros, la prison, hein, avec des procédures, des protocoles, et on laisse rentrer... pour un week-end, parce qu'il était un week-end dans une unité spéciale, sa femme, Angela Ba, en tout cas en robe longue, etc., sans la fouiller, avec des couteaux en céramique. D'ailleurs, maintenant, tout le monde le saura quand des couteaux en céramique ne sonnent pas au portique, puisque l'information maintenant est générale. Et donc, ça ne choque personne.
Mais à qui la faute, Louis Alliot ?
Si on était une démocratie normale, il y a une chaîne de responsabilité. Et en haut de cette chaîne, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, en haut de la chaîne, il y a Madame Belloubet, il y a la ministre de la Justice, le personnel pénitentiaire. Moi, j'étais, alors, il y a 2 ans déjà, dans des grèves où ils demandaient un certain nombre de mesures de sécurité, de rétablissement de fouilles, etc., etc.
Les conditions sont très strictes pour appliquer des fouilles
aux problème, visiteurs. C'est qu'elles sont très strictes. La preuve que non, puisqu'on a écouté avant l'émission un reportage où on disait c'est selon au cas par cas.
Donc ça veut dire qu'elle aurait pu être fouillée.
Elle aurait dû être fouillée. Elle arrive avec une tenue qui n'est pas une tenue, j'allais dire, commune, entre guillemets normale.
On doit la fouiller selon la tenue des personnes qui viennent rendre visite.
Écoutez, quand vous avez un islamiste radical en prison et que sa femme Angela Ba vient, oui, c'est un élément suspect et on devrait la fouiller, ça me paraît évident. Parce que je rappelle que je ne sais pas quel était le terroriste qui avait échappé aux gendarmes et aux policiers pendant longtemps. Il se déguisait précisément en femme à burqa pour échapper aux policiers. Voilà un élément déterminant dans la fouille des gens qui rentrent dans les prisons. Ça me paraît être minimum, d'ailleurs.
Louis Alliot, le communiqué de votre parti, le Rassemblement National, indiquait hier que le système carcéral n'est pas adapté. Pourtant, maintenant, il y a des quartiers d'évaluation de la radicalisation, il y a des quartiers d'isolement, de prévention de la radicalisation. Qu'est-ce que vous... Ça veut dire quoi que le système carcéral n'est pas adapté aujourd'hui ?
D'abord, il y a une surpopulation carcérale qui fait que le personnel pénitentiaire est débordé et n'a plus les moyens de faire face. Et on ne mélange pas des gens radicalisés et dangereux avec d'autres détenus. Cette personne-là, elle avait été mélangée à un autre, d'ailleurs, terroriste. Bon, il faudrait des centres spécialisés.
Il y en a dans les prisons, au sein des prisons.
Isolés, avec des procédures draconiennes. Voilà, la vérité, c'est ça. Et pas cette espèce... On a une espèce de prévention à l'égard de gens qui n'ont que la haine et la volonté de destruction de notre monde. C'est quand même incroyable. Avec ces gens-là, on ne prend pas de pincettes. Voilà, on utilise, j'allais dire, la force légale, on les met à l'isolement, et il n'y a pas de considération, j'allais dire, de bien-être à avoir avec ces gens-là.
Ce que disent les directeurs de prison, Louis Alliot, c'est que c'est parfois difficile d'évaluer la dangerosité d'un détenu.
Non, mais en France,
avant qu'il passe à l'acte.
En France, toujours tout est difficile, mais pour celui-là, c'est pas vrai. C'est un radicalisé islamiste. C'est quelqu'un qui est déjà passé à l'acte et qui était dans des réseaux déjà islamistes. Comme ne me disent pas, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il va passer à l'acte. Il est en prison. C'est donc qu'il est déjà passé à l'acte et donc à ce titre-là, il doit être à l'isolement.
Par des actes de terrorisme.
C'est donc à ce titre-là qu'il doit être mis à l'isolement. Ce n'est pas le premier détenu qui passe à l'acte contre le personnel pénitentiaire. Et ce qui devrait importer la ministre de la Justice, c'est d'abord le bien-être et le fonctionnement du personnel et pas des détenus et de ce genre de détenus.
Vous craignez toujours un retour des djihadistes français. La semaine dernière, le président de la République a expliqué qu'il n'y avait pas précisément de programme de retour.
Ben oui, mais on aimerait savoir la vérité, parce qu'entre
le
président qui dit qu'il n'y a pas de problème de retour et Mme Belloubet qui dit l'inverse, puisqu'elle dit qu'on va...
C'était il y a quelques semaines.
Oui, d'accord, mais...
Donc le président a tranché. Vous êtes rassuré?
Je n'y crois pas. Voilà, il y aura, voilà, je n'y crois pas. Ça se fera toujours dans le dos des journalistes du monde médiatique ou du monde politique. Et on apprendra dans quelques mois qu'on a fait revenir, comme ça, par un biais détourné, des gens qui n'ont aujourd'hui rien à faire chez nous. J'en suis persuadé. Ça s'est toujours fait comme ça, d'ailleurs. Voilà. On sait que l'opinion est sensible à ce sujet, donc on essaye un peu de calmer médiatiquement la chose, mais il est évident, et j'en suis persuadé, que dans la tête de Mme Belloubet de ce gouvernement, nous aurons le retour de djihadistes qui pourtant n'ont plus rien à faire chez nous.
Pourquoi? Mais pourquoi vous pensez que dans la tête de Nicole Belloubet, alors qu'effectivement un certain nombre de djihadistes français, ou présumés comme tels, viennent d'être mis à la justice irakienne, pourquoi
non,
vous
pas...
pensez...
Parce
Pourquoi
qu'il y en a,
pensez que dans
parce
notre
qu'il
dos,
y en a des milliers et que ceux qui ont été remis à la justice irakienne ne sont que quelques dizaines. Donc il y a des gens aujourd'hui dont on ne sait pas où ils sont et ce qu'ils vont devenir. Et on a entendu à plusieurs reprises, y compris M. Castaner d'ailleurs, qui a dit qu'effectivement il faudrait récupérer ces gens-là. Donc je suppose que ces gens-là vont être récupérés, mais on ne saura pas ni comment ni où.
Une dernière question sur ce sujet. Les enfants français qui se trouvent actuellement en Irak et en Syrie, également, ils doivent y rester, selon vous ?
S'ils sont avec leurs parents, en tout cas avec leur mère, oui. Et pour un certain nombre d'entre eux qui sont orphelins et en très bas âge, je pense qu'il y a moyen de les faire revenir, avec quand même une précaution de ne pas les remettre dans des familles d'accueil qui sont elles-mêmes des familles qui ont permis la radicalisation de leurs enfants. Parce que j'écoutais il y a quelques jours une grand-mère qui voulait le retour de ses petits-enfants. Enfin, elle n'a pas été capable déjà de gérer sa fille qui est partie se battre en Syrie et au nom des islamistes. On ne va pas en plus lui donner la garde de ses petits-enfants.
Louis Alliot, député du Rassemblement National, notre invité ce matin sur France Info. D'autres questions pour vous, juste après l'info, il est 9h-20. Thomas Bénèche.
Une centaine de surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe bloquent ce matin les entrées de l'établissement. Action menée après l'agression à caractère terroriste hier de deux surveillants. Les syndicats pénitentiaires appellent à la mobilisation sur tout le territoire. Plusieurs prisons sont ce matin bloquées, de Fleury-Mérogis à Fresnes, en passant par Grasse et Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Les obsèques de l'un des deux jeunes morts samedi soir à Grenoble ont lieu aujourd'hui. Une marche blanche suivra à partir de 16h depuis le quartier Mistral. Attention, si vous habitez la Loire et le Rhône, Météo France place ses deux départements en vigilance orange au vent violent. Plus de 600 dauphins retrouvés morts depuis le début de l'année sur toute la façade atlantique. L'ONG Sea Shepherd dénonce les méthodes de pêche. Elle a déposé un cadavre de cétacé hier soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À Paris joue ce soir pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions de football. C'est à 21h face à Manchester United. Compétition terminée en revanche et c'est une surprise pour le Real Madrid éliminé hier soir par l'Ajax Amsterdam.
Louis Alliot, député du Rassemblement National des Pyrénées-Orientales. Notre invité ce matin, Jean-Jérôme Bertolus. On parle de cette tribune publiée par le président de la République, Emmanuel Macron, hier dans plusieurs journaux européens.
Et on va revenir sur les propositions, dont certaines d'ailleurs, effectivement, pourraient être trouvées grâce à vos yeux. Mais d'abord, il vous attaque, il vous compare, vous, les nationalistes, à des exploiteurs de colère qui exploitent des fake news, précisément, pour promettre le tout et son contraire. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Que c'est lui, le principal agent des fake news en France, c'est lui. C'est lui qui devait amener un certain nombre d'aspects positifs dans le monde, dans le milieu économique, dans l'aspect social, dans l'aspect humain. Aujourd'hui, sa politique a permis à des millions de gens d'être dans la rue pour contester ce qu'il est, ce qu'il représente
des
et la politique qu'il mène.
Pas, mais bon. Sur le fond, il propose une remise à plat de l'espace Schengen. Il propose aussi, par exemple, un conseil de sécurité intérieure en Europe. Ça veut dire qu'il veut redonner le pouvoir aux États par rapport à la Commission. Tout ça, ça va dans votre sens, non ?
Ce qui prouve sur les concepts, après il y a le fond de ce qu'il veut faire, mais en tout cas sur l'effet d'annonce, ce qui prouve que nous avions raison et que ce que nous disons depuis déjà longtemps n'est pas une aberration. Il a même eu cette phrase, la frontière c'est la liberté en sécurité. Il a fait l'éloge de la frontière, c'est-à-dire ce que nous faisons nous depuis déjà 30 ans. Il reconnaît que la frontière est quelque chose qui protège, qui doit être contrôlé, c'est-à-dire on laisse passer ce qui est bon et on rejette ce qui est mauvais, c'est-à-dire c'est formidable. Eh bien,
de quelles frontières vous parlez, Louis Alliot? Parce que non, Emmanuel Macron, il parle des frontières de l'espace Schengen, si j'ai bien compris.
Non, mais il parle de la frontière. La frontière, c'est la frontière. Et la France, qui a quand même deux espaces maritimes, elle a des frontières à l'extérieur de l'Europe aussi. Donc, de ce côté-là, c'est aussi nos frontières.
Mais vous parlez de toutes les frontières du territoire
national.
Oui,
d'accord. Mais si la frontière est à ce point salutaire qu'il faut la défendre et la contrôler, nous disons, pour l'instant, en tout cas, nous ne faisons pas confiance aux pays extérieurs qui contrôlent les frontières, et il est bon que la France contrôle ses frontières intérieures, ce qu'elle fait d'ailleurs, ou ce qu'elle fait déjà depuis les attentats de 2015, je crois, et qu'elle va faire à nouveau, puisque vous savez, par exemple, chez moi, dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, au Pertus, à partir, je crois, de cet été,
Pertus, oui.
Il y aura le rétablissement du contrôle aux frontières, ce qui prouve bien que ça a une utilité, et qu'il est bon que les pays contrôlent leurs frontières.
Et ce qui prouve effectivement que certains mécanismes européens marche.
Mais c'est pas européen, c'est national là pour
oui,
le coup.
Oui, mais effectivement, voilà. Schengen le permet. Un petit mot, la majorité estime que l'Europe est en danger mortel d'éclatement. Il y a des
attaques
politiques extérieures des États-Unis, de la Russie, il y a des dissensions politiques très vives avec certains de vos amis, notamment en Italie, en Hongrie. Est-ce qu'effectivement, il y a un risque d'éclatement?
Mais c'est pas l'Europe. Moi, maintenant, il faut faire la différence. L'Europe, c'est le continent européen. Nous sommes tous des Européens. Français, Portugais, Italiens, Espagnols, Allemands. Nous sommes des Européens. C'est l'Union européenne qui ne fonctionne pas. Vous avez vu cette tribune, hier, précisément dans le journal La Tribune, l'espace européen, depuis 2009, est l'espace où il y a eu le moins de croissance. Moins 2% de croissance, alors que les États-Unis, la Chine et d'autres pays ont des croissances supérieures quelquefois à 100%. Ce qui prouve bien que c'est le modèle de cette Union européenne qui ne fonctionne pas et qu'il faut en changer. Simplement, il y a en face, des gens qui ne veulent pas reconnaître leurs erreurs et leurs mauvaises politiques et des personnes qui, comme nous, s'opposent à cette Union européenne parce qu'on considère que le modèle...
Mais vous ne voulez plus en sortir. En même temps, vous-même, vous dites, vous avez beaucoup, beaucoup évolué. Mais est-ce que Brexit ne va pas servir d'épouvantail vos électeurs? On voit que,
Ne crois pas. Ce qu'il faut, c'est l'Europe, l'Union européenne, c'est un traité. Il faut renégocier les traités vers plus de coordination et de coopération entre États et moins de commissions de Bruxelles et moins de normes qui viennent d'en haut pour être appliquées en bas. C'est ce à quoi il faut arriver. Voilà. Une Europe des nations et pas une Europe fédérale telle que la veut M. Macron d'ailleurs.
Le président était sur la rail ce week-end. Est-ce que vous saluez sa volonté d'apaisement vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis bien sûr des dirigeants italiens? Il sera prochainement en Pologne. On sent qu'effectivement, bien le credo n'est plus progressiste contre nationaliste.
Je pense que nous avons tous intérêt, j'allais dire, à dialoguer. Et nous n'avons rien à gagner à nous mettre en opposition avec des grands pays comme l'Italie ou d'autres. Donc, de ce point de vue-là, quand on rétablit le dialogue et qu'on rétablit, j'allais dire, une coopération, une coordination même des politiques, notamment, je pense, à l'Italie, une amitié même entre les peuples, c'est toujours bien. Mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'il a été un peu, j'allais dire, un peu boutefeu en essayant de montrer ou de démontrer à la population française que l'Italie ceci, l'Autriche cela, Monsieur Orban encore pire.
Or, défendre la voix de la France, ça doit pas vous déplaire, Louis Alliot.
Oui, enfin, quand il défend la voix de la France, c'est une chose. Quand il défend la voix de l'Union européenne, ça n'est une autre, parce que quelquefois la voix de la France n'est pas du tout, j'allais dire, en harmonie avec la voix de l'Union européenne, c'est-à-dire de la Commission de Bruxelles.
Mais ça, vous êtes d'accord?
Mais c'est pas ce qu'il fait. Lui, il porte la voix de l'Union européenne. Nous, on porte la voix de la France.
Pour les européennes, vous allez rejouer le match des présidentielles. C'est vous, le Rassemblement national, contre la majorité. C'est Marine Le Pen contre Emmanuel Macron.
C'est deux modèles différents qui s'opposent. Et j'espère qu'il y aura un vrai débat sujet par sujet, j'allais dire, et thème par thème. Et j'allais dire, les deux...
En même temps, votre campagne, elle patine un peu en ce moment. Hein. Vous faites un petit peu du surplace dans les sondages. Vous êtes au coude à coude avec la majorité.
Du surplace à plus de 20%, et j'allais dire, avec deux partis, trois partis de la majorité. Hein, et avec le président de la République en chef de la campagne électorale, alors qu'il est censé être, je le rappelle, hein, aux yeux de la Constitution, le président de tous les Français et arbitre des institutions de la République. Là, aujourd'hui, c'est le capitaine de l'équipe et c'est lui qui mène la campagne électorale pour son camp. Ce qui est d'ailleurs, je pense...
Ça a toujours été comme ça, non?
Non, aux européennes, ça n'a pas été toujours comme ça. Je pense que là, il est vraiment sur le terrain, qu'il s'engage. Et donc là, le peuple français devra, j'allais dire, sanctionner ce qu'il représente et la politique qu'il mène.
On a l'impression que ce duel avec La République En Marche, ça vous arrange tous les deux, finalement
Mais c'est pas une histoire. Nous, on regarde pas ça par rapport à un duel. On regarde ça par la politique qui est menée et la politique que nous proposons et que nous voulons. Il se trouve que Monsieur Macron est en première ligne. Eh bien, voilà, on mène le combat contre Monsieur Macron. Et de ce point de vue-là, Marine est en tête aussi dans ce combat-là.
Mais là, vous parlez de la France, de la situation politique en France. Mais on a envie de vous demander à quoi ça sert de voter aux européennes pour le Rassemblement national. Par exemple, À Strasbourg, vous connaissez bien l'hémicycle de Strasbourg. Les nationalistes, les souverainistes, vous êtes tous divisés. Vous êtes tous dans des groupes différents. Donc votre influence, elle est très très limitée.
Vous devriez vous poser la question inverse. À quoi ça sert de voter pour des gens qui, depuis 30 ans, nous disent qu'il faut plus d'Europe, et on en arrive aujourd'hui à une situation dramatique où il n'y a jamais eu autant de chômage, de misère sociale, d'affrontement dans nos propres rues, et même de décroissance, puisque moins 2% de croissance à l'échelle de l'Europe depuis 2009, c'est un échec cinglant.
Oui, si je vous observe, donc, vous, exemple, même en France, exemple, Nicolas Dupont-Aignan, qui était avec vous à la présidentielle, et ben maintenant il a décidé de faire cavalier seul. Il ne siégera pas dans le même groupe que vous à Strasbourg. Donc vraiment, vous partez tous désunis et votre voix est quand même très mineure.
D'abord, ce n'est pas fait, car nous souhaitons le grand rassemblement des souverainistes au Parlement européen et nous travaillons pour cela. Monsieur Dupont-Aignan est dans une entreprise aujourd'hui personnelle, il est à 5%, il devra se poser les bonnes questions à lui-même. Nous avons toujours porté ce message de rassemblement et d'union, et nous n'en bougerons pas. Et le jour d'après, dans l'hémicycle du Parlement européen, nous serons les porteurs de ce message de rassemblement avec tous ceux qui ne veulent plus de ce système d'union européenne.
Très vite, toujours pas de meeting en vue avec Matteo Salvini. Vous ne parvenez pas à faire ce meeting avec votre ami italien.
Il y aura un meeting avec Matteo Salvini, et vous aurez la date quand elle sera, je vais dire, publique.
Qu'est-ce qui bloque pour l'instant, Louis Alliot?
Écoutez, je ne sais rien, vous verrez.
Vous ne savez pas ce qui bloque dans cette discussion avec l'Italien Matteo Salvini?
Je ne suis pas
vous qui organisez.
Exactement.
Ah d'accord. Bon, très bien. Louis Alliot, député du Rassemblement national des Pyrénées-Orientales. Notre invité ce matin sur France Info. D'autres questions pour vous juste après l'info 9h10, Thomas Bénèche.
Carlos Ghosn est libre et a quitté sa prison de Tokyo. Selon la chaîne japonaise NHK, l'ex-patron de Renault a versé la caution de 8 millions d'euros qui lui était réclamée. C'est ce que nous disait ce matin son avocat français sur France Info. L'ancien mania de l'automobile était détenu depuis le 19 novembre au Japon, pays où il est toujours soupçonné de malversation financière. L'inspection générale de la justice au travail, depuis ce matin, après l'agression au couteau de deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe hier. Il s'agit de savoir comment un couteau a pu pénétrer dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Derrière cette attaque, un détenu radicalisé et sa compagne tuée lors d'un assaut du raid. Elle doit rapporter 500 millions d'euros à l'État français. La taxe sur les activités des géants du numérique est présentée ce matin en Conseil des ministres. Le taux d'imposition retenu est de 3%. Les buralistes vendront-ils très bientôt des billets de train dans leurs établissements? Et bien, pour en parler, le représentant de la profession rencontre aujourd'hui le patron de la SNCF, Guillaume Pépi.
Louis Alliot, député du Rassemblement national des Pyrénées-Orientales, notre invité ce matin, Jean-Jérôme Bertolus.
La mobilisation des Gilets jaunes a nettement faibli ces dernières semaines. Est-ce que vous soutenez toujours ce mouvement et est-ce que vous espérez un regain de mobilisation le 16 mars, à l'issue du grand débat?
Moi, je soutiens certaines revendications qui sont portées par les Gilets jaunes, c'est-à-dire celles qui étaient portées le 17 novembre, où je m'étais rendu d'ailleurs à plusieurs reprises et sur plusieurs week-ends, et où il y avait là, je veux dire, l'expression d'une France plurielle qui souffre, qui est dans la misère sociale et qui avait un certain nombre de revendications financières, sociales, fiscales, qui portaient un message.
Depuis maintenant, la démission d'Emmanuel Macron qui est revendiquée, parce qu'effectivement, il y a eu les 10 milliards d'euros mis sur la table.
La démission d'Emmanuel Macron, je veux dire, c'est pas non plus une affaire en soi. Depuis tout temps, les présidents de la République ont toujours eu des gens pour demander leur démission ou celle des gouvernements. Ça, c'est anecdotique. Ce qui est important, c'est le message qui est porté.
Qu'est-ce qui a changé depuis le début
justement,
du mouvement?
Justement, je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes dans ces manifestations sont sincères, mais d'autres sont totalement, j'allais dire, infiltrés par la gauche, l'extrême gauche et les syndicats de gauche. La preuve que j'en ai, moi, c'est que je vois les membres de la France insoumise remettre le gilet jaune aujourd'hui dans les manifestations, ce qu'ils ne faisaient pas au début, ou la CGT d'ailleurs, ce qui prouve bien que ces gens-là ont occupé le terrain et tentent, ou en tout cas ils sont arrivés, de manipuler certaines franges de ce mouvement des Gilets jaunes.
France Insoumise, François Ruffin était assez vite aux côtés des
Gilets jaunes.
Je donne un exemple, Louis Alliot.
Non, non. assez vite, mais pas le jour J. Là, aujourd'hui, ils y sont tous. La CGT avec. Au départ, je vous signale que la CGT n'avait pas voulu participer au mouvement des Gilets jaunes et qu'elle était même la malvenue dans un certain nombre de rassemblements.
Avec les Gilets jaunes, ça discrédite ce mouvement, si je vous comprends bien.
Évidemment, quand vous avez un syndicat qui pèse, je sais pas combien, moins de 7% de représentation dans les salariés et qui tente de se refaire une santé sur le mouvement des Gilets jaunes, ça en dit long d'ailleurs sur l'état un peu de ces mouvements de contestation sociale.
À propos de la France insoumise, il y a eu une passe d'armes hier avec le Premier ministre et avec le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Loïc Prud'homme, député de la France insoumise, s'est fait matraquer samedi dernier à Bordeaux. On écoute la réponse de Christophe Castaner.
Ça n'est pas l'attitude d'un député que de se retourner, de provoquer, de baisser le bouclier de protection des forces de l'ordre. Et qu'il me semble qu'un échange avec nos hommes devrait nous permettre d'avancer dans la bonne direction. Voilà, monsieur le député.
Vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur ou à l'inverse, vous êtes solidaire de la France insoumise sur la question des violences policières?
Ces députés ont quitté l'hémicycle hier.
Ce n'est pas correct de la part de monsieur Castaner. Un député manifeste où il veut, comme il veut. Il est, j'allais dire, l'expression de la représentation nationale. Sinon, député, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Il y a encore un statut du député, un parlementaire, c'est quelque chose d'important. Et au nom de cette séparation des pouvoirs, il est l'expression, j'allais dire, de la nation. Et c'est anormal qu'aujourd'hui, un député puisse se faire taper dessus, j'allais dire, dans la rue, à moins, évidemment, qu'il soit pris en flagrant délit de violence. À ce moment-là, évidemment, mais les forces de l'ordre en auraient le droit.
Comme n'importe quel autre citoyen, Louis Alliot.
C'est-à-dire?
Vous nous dites, c'est inacceptable qu'un député se fasse taper dessus.
J'y vais, s'il a rien fait, oui, ça me paraît évident. Mais un député particulièrement, il a, j'allais dire, il manifeste où il veut. Monsieur Castaner n'a pas décidé si le député doit aller manifester là, c'est autorisé, et là, c'est pas autorisé. Le député, il est libre. C'est même, j'allais dire, le fondement de sa fonction et de son statut.
Alors effectivement, il y a la question des violences policières. Vous dites, vous, que le mouvement est maintenant infiltré par l'extrême gauche. Il y a bien sûr la question économique des petits commerçants étranglés. Hier, le ministère des Transports indiquait à France Info que sur les routes, ça a déjà coûté 3 millions d'euros. Maintenant, il faut que ça s'arrête.
Oui, d'accord, mais vous avez des gens...
C'est une question.
Bien sûr, moi je suis intervenu auprès de commerçants et d'artisans, par exemple, de ma circonscription, qui souffraient beaucoup d'un certain nombre de blocages, et j'ai essayé avec le ministre concerné d'un peu faire débloquer la situation. Mais, si vous voulez, la misère des uns est en train de répondre à la misère des autres. Il y a des gens sur les ronds-points, au départ, qui n'avaient plus rien, qui n'arrivaient plus à boucler les fins de mois, qui n'arrivaient plus à payer des vacances à leurs enfants. Il y avait de la vraie souffrance sociale. Et ces gens-là, c'est vrai qu'il fallait leur répondre, il fallait leur donner, j'allais dire, des mesures à la hauteur de leurs espérances et de leurs espoirs. Ça n'a pas été fait.
Et vous espérez effectivement que le gouvernement va en tenir compte à l'issue du grand débat. Il y a eu déjà les 10 milliards sur la table.
Le gouvernement,
on va écouter le Premier ministre. Il était hier aux 10 ans de l'autorité de la concurrence et il a proposé d'autres mesures de pouvoir d'achat.
Nous devons également nous attaquer à un autre aspect, celui de ce qu'on appelle souvent les dépenses contraintes. Ces dépenses dont on ne peut pas se passer et dont chaque hausse injustifiée s'apparente à un impôt caché.
Non, de toute façon, ils ne tiendront compte de rien. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, l'essence a réaugmenté, l'électricité, le gaz a réaugmenté, les produits alimentaires ont réaugmenté.
Non, mais voilà, l'essence a réaugmenté, c'est
non,
pas.
Non, mais on se fout du monde. La vérité, c'est qu'on
c'est
se
pas dû aux taxes.
On se fout du monde. Voilà. Ce gouvernement a noyé le poisson, a gagné du temps, a tenté, il y est arrivé, d'étouffer cette contestation sociale salutaire. Et aujourd'hui, il va aller de l'avant selon son programme et, j'allais dire, la direction qu'il s'est fixée. Ça ne fait aucun doute. Et à la fin de ce débat qui n'en finit pas de débattre, si je puis dire, s'il n'y a rien de concret, eh bien ça se terminera mal et ça se terminera dans la rue. Puisqu'en fait le Parlement n'est pas représentatif, les syndicats ne représentera plus rien, eh bien les gens qui n'en peuvent plus et qui n'ont plus rien pour vivre, eh bien descendront à nouveau dans la rue pour contester et bloquer le système.
Pour conclure, Louis Alliot, une question sur l'Algérie. Est-ce que vous saluez la prudence, voire le silence du gouvernement français vis-à-vis des manifestations qui se déroulent actuellement en Algérie et certaines en France?
C'est un silence un peu bizarre puisque, j'allais dire, systématiquement, le gouvernement français ou la France prend position sur tous les conflits du monde. On voit bien qu'elle est gênée avec l'Algérie, il faudrait qu'elle dise pourquoi elle est gênée à ce point. Il est vrai que la candidature de M. Bouteflika est une farce, car on voit bien qu'il ne gouverne plus, qu'il n'est plus en état de gouverner, que c'est un pays riche, que c'est un pays très jeune, que la situation peut dégénérer, et la France ferait bien de regarder de près ce qui s'y passe.
Justement, le gouvernement ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, en
quelque
sorte.
D'accord, mais on est la France, on est un pays indépendant, et on peut dire ce qu'on veut avec un pays avec lequel nous avons des liens. Il y a un certain nombre, d'ailleurs, de franco-algériens qui manifestent au nom de la liberté dans notre pays, et qui sont algériens, et feraient aussi bien d'aller peut-être manifester dans leur pays pour défendre la démocratie et la liberté.
Louis Alliot, député du Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, était notre invité ce matin sur France Info. Excellente journée à tous.